Hommes et femmes connus et méconnus de Savoie, une chronique de Pierre Cardona.
Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Je vous fais découvrir chaque semaine des personnages qui ont fait la richesse de notre belle Savoie ou de certains qui ont réalisé des actions fortes. Pour ma part, je parle au nom de la Compagnie de Savoie qui a pour objectif de promouvoir les valeurs des pays de Savoie, de transmettre et de sauvegarder cette identité savoyarde. Nous allons aujourd'hui à la découverte d'un homme qui est à la base de nombreuses discussions que nous entretenons encore actuellement. C'est Joseph de Maistre, dit le penseur de la contre-révolution. Connaissez-vous cet écrivain, homme politique plus royaliste que le roi de Piémont-Sardaigne, né à Chambéry en 1753 au sein d'une famille d'aristocrates? Il étudie chez les jésuites, entre la magistrature où officie déjà son père, il est curieux de tout. En 1784, avec Xavier son cadet, il lance une souscription destinée à financer le vol d'une montgolfière au-dessus de sa ville natale, et tant et si bien qu'un an après l'exploit des frères montgolfiers en Ardèche, les Savoisiens émerveillés découvrent à leur tour ce spectacle qui dure une vingtaine de minutes. À 35 ans, Joseph de Maistre est nommé sénateur. Arrive la Révolution française avec son cortège de réfugiés, fuyant à pied, à cheval ou en carrosse vers Genève ou Turin. Dans un premier temps, l'intéressé ne voit pas d'un trop mauvais œil les soubresauts qui agitent ce pays voisin, mais la déchristianisation, la brutalité destructrice et l'arbitraire prennent bientôt le dessus. Son opinion change rapidement. En septembre 1792, les troupes révolutionnaires envahissent le duché de Savoie, prestement réuni à la France pour former le nouveau département du Mont-Blanc. Opposé à cette décision de l'Assemblée des Allobroges, le sénateur et comte, fidèle à Victor Amédée III, rejoint Aoste avec femme et enfants, mais redoutant la confiscation de ses avoirs, il revient moins d'un mois plus tard à Chambéry, où il refuse de prêter serment aux autorités nouvelles et assiste, dès lors, impuissant à la mise en vente de tous ses biens. Le franc-maçon, qui navigue à contre-courant, s'exile dès lors à Lausanne, où il travaille pour son souverain tout en se mettant à écrire les lettres d'un royaliste savoisien à ses compatriotes, ceci en 1794, dans lesquelles il condamne sans appel ses désordres, qui débouchent selon lui sur une dictature atroce propageant, entre autres, l'athéisme et la suppression de la propriété privée. La folie meurtrière de la terreur le conforte dans sa détestation d'un régime qui, faisant table rase du passé, n'a plus ni valeur ni repère. Il y a, dans la Révolution française, un caractère satanique qui le distingue de tout ce que l'on a vu, peut-être de tout ce que l'on verra, écrit-il en 1797 avant de publier « Considérations sur la France », livre dans lequel il fait une nouvelle fois l'apologie de la royauté. La foi et l'autorité unissant selon lui les hommes, au contraire de la démocratie qui les divise, car fondée sur la notion absurde d'égalité. Dans ces conditions, l'auteur estime que le retour à la monarchie de droit divin est indispensable. Ennemi de Jean-Jacques Rousseau, partisan de la démocratie directe, Joseph de Maistre fustige la liberté individuelle, le protestantisme animé, comme son nom l'indique, par un esprit de révolte, et il moque aussi le bel optimisme des Lumières. C'est d'ailleurs à ce conservateur implacable que l'on doit le mot « individualisme », source à l'en croire de tant de mots. En tout cas, ses écrits d'un style direct, animé, semblent n'avoir eu que peu d'écho auprès de ses compatriotes savoyards, même si quelques révoltes vite réprimées ont éclaté ici ou là, et celle de la vallée de Tône conduite par une femme, la Frichelette, restant à cet égard la plus mémorable. Joseph de Maistre quitte Lausanne, rejoint Charles-Emmanuel IV à Turin, mais les troupes françaises envahissent le Piémont. Nouvel exil à Venise, puis à Cagliari en Sardaigne. En 1802, Victor-Emmanuel Ier, succédant à son frère qui abdique, nomme ce fidèle serviteur ministre plénipotentiaire auprès du tsar de Russie. La famille s'installe donc à Saint-Pétersbourg. Beau parleur, érudit, farci d'anecdotes, Joseph de Maistre s'attire les faveurs de la bonne société locale et retrouve avec bonheur son frère Xavier, lui aussi au service du tsar Alexandre Ier. Grâce à ses relations personnelles, Joseph réussit à faire nommer son frère au poste de directeur de la bibliothèque et du musée de l'Amirauté. Il rencontre à plusieurs reprises le tsar, qui semble goûter ses conseils, et bien que désargenté, refuse l'immense fortune qui s'offre à lui quand le monarque veut le nommer ministre. Il entretient une correspondance suivie avec des intellectuels français comme étrangers. Lui, qui a dû fuir avec sa famille tant de pays ravagés par la guerre ou par l'insurrection, apprécie l'hospitalité des Russes et l'éclat de la cité construite au bord de la Neva par Pierre le Grand. « Rien n'est plus rare, dit-il, mais rien n'est plus enchanteur qu'une belle nuit d'été à Saint-Pétersbourg. Soit que la longueur de l'hiver et la rareté des nuits donnent, en les rendant plus désirables, un charme particulier, soit que réellement, comme je le crois, elles soient plus douces et plus calmes que dans les plus beaux climats », écrit-il dans les soirées à Saint-Pétersbourg. Recueil de souvenirs, de pensées, où le style de l'austère moraliste dégage beaucoup de grâce et d'humanité. Écrivain déconcertant qui passe par une adresse singulière de la prose, la plus sentencieuse, à une narration pleine de poésie. En 1813, Joseph de Maistre assiste au mariage de son frère Xavier avec une princesse russe, demoiselle d'honneur de la tsarine. Au cours de cette période, il fréquente les milieux maçonniques et ne ressent que mépris pour Napoléon Bonaparte qui se casse les dents en Russie. Le premier traité de Paris, en 1814, consacre le démantèlement de la Savoie entre la France, qui conserve Annecy et Chambéry, la Suisse et le royaume de Piémont-Sardaigne. Joseph de Maistre écrit « Ma malheureuse patrie est dépecée et perdue. Étranger à la France, étranger à la Savoie, étranger au Piémont, j'ignore mon futur. » L'écriture occupe le plus clair de son temps. Dans « Du pape », son œuvre principale, il jette encore une fois son venin contre le protestantisme et l'Église anglicane, justifie la suprématie de Rome, explique le rôle vital à ses yeux de la Providence dans l'histoire agitée des sociétés humaines. À la suite du second traité de Paris, après la bataille de Waterloo en 1815, le roi de Piémont-Sardaigne récupère l'ensemble de la Savoie. Pas mécontent de la tournure prise par les événements, Joseph de Maistre rejoint Turin en faisant un détour par Paris. Lui qui, depuis des années, prêchait dans le désert en annonçant le retour de la monarchie, obtient une audience chez Louis XVIII avant d'être ovationné à l'Académie française. Il visite ensuite la France, qu'il ne connaît pas, et retrouve des membres de sa famille en Savoie. Au soir d'une vie d'errance à travers l'Europe, cet apôtre de l'ordre, ennemi acharné de la Révolution française, pose ses bagages dans la capitale du Piémont. Nommé par le roi garde des Sceaux, avec rang de ministre d'État, il déclare, rapporte sa fille Constance, « Voyez mes enfants, il y a 50 ans que je le sers et c'est aujourd'hui seulement qu'il reconnaît mon zèle et ma fidélité. Cela signifie que je dois mourir bientôt. » Joseph de Maistre s'éteint à l'âge de 67 ans en 1821, année de naissance de Charles Baudelaire, qui sera l'un de ses admirateurs. Mais ceci est une autre histoire. Cette chronique est tirée d'un livre de Michel Germain, président de la Société des auteurs savoyards, et celui de Pierre Hoffmann, ces savoyards qui ont fait l'histoire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Et surtout, à une prochaine fois.